Le huitième soleil, par Richard Keller, chapitre 19. J'irai le long du grand canal, sans but précis, l'esprit à la dérive. La foule m'effrayait. Un kaléidoscope de couleurs évoluait devant mes yeux. Des gens costumés me saluaient dans mon habit d'arlequin. Je fixais l'eau où se reflétait le soleil d'hiver. Mon cœur aussi épousait la saison. Les palais vénitiens se miraient dans l'onde. Chacun avait revêtu ses plus beaux atours pour la fête nocturne, et le bal du carnaval plongerait les danseurs dans un autre siècle. Je cherchais à prendre contact avec l'expatrié, car j'éprouvais un besoin immense de me réfugier auprès de lui. Je déambulais dans les ruelles et m'éloignais de l'artère principale. Venise me paraissait triste. Je revins sur le grand canal. Je fuyais le flot humain qui s'emparait de la vieille cité. Mais je redoutais aussi la solitude des rues étroites. Je ne savais plus où j'en étais. Des gondoles passèrent devant moi. Elles évoluaient avec leur grâce habituelle. À l'intérieur, des couples costumés jouissaient de l'instant présent et vivaient des moments de bonheur. Je me prenais à rêver d'un tel scénario avec Isabelle. Je crois qu'elle aurait modernisé la scène. Elle aimait transgresser la tradition. Quelle fantaisie traversait cette femme! Les exhibitionnistes défilaient sur l'eau et les quais dans leurs déguisements. Ils prenaient plaisir à se montrer. Ils étaient venus ici pour être vus et rivaliser de beauté. Ils paradaient et n'hésitaient pas à poser devant leurs admirateurs. Dans ce contexte particulier et festif, chacun devenait le voyeur de l'autre et se prenait au jeu. J'esquissais un pâle sourire face à l'objectif des photographes. Il fallait donner le change. Isabelle était restée au campanile. Je marchais seul dans les rues. Je cherchais la place Saint-Marc du regard. Je m'éloignais d'Isabelle, mais je voulais encore la voir dans les airs. Nous avions décidé de tenter un pari insensé, et je visualisais la séquence, un peu à sa manière télévisuelle. Par bravade, elle avait accepté d'affronter l'interdit. Et elle s'était engagée dans la folle gageur de descendre le long du filin pour atterrir face au palais des doges. Jusqu'au dernier moment, elle a cru que j'allais la suivre. Je l'ai attachée au câble, elle a enjambé le balustre en se tournant vers moi. À cet instant, il m'a semblé qu'elle avait compris. Notre histoire commune écrivait ses dernières lignes. Isabelle m'a fixé intensément. Elle m'a saisi la tête pour m'embrasser. J'ai fait de même. Lorsque le baiser a pris fin, j'ai tiré d'un coup sec et violent, sa nuque en arrière. Elle n'a pas bougé, ses vertèbres cervicales ont cédé. J'ai poussé mon passé dans le vide. Elle avait presque gagné son pari. Je n'allais pas payer l'hôtel. Avec quel argent, d'ailleurs? La société de production d'Isabelle prenait en charge les frais, puisqu'il s'agissait d'un voyage professionnel avec le cobaye de l'émission. Le passage à la chambre ne fut qu'une simple formalité. Je récupérai mes affaires et sortis le plus naturellement du monde. Personne ne me demanda si je partais. Les palaces savent cultiver la discrétion et mon ami d'Arlequin s'avérait un excellent sésame. L'expatrié ne se manifestait pas. Son absence m'intriguait. Il me mettait à l'épreuve. Je devais me débrouiller tout seul. Et je dus reconnaître que son analyse se révéla d'une justesse incontestable. Je devais résoudre par moi-même le problème posé et quitter Venise le plus rapidement possible. Isabelle n'était pas funambule. Sa destinée ne tenait qu'à un fil. Elle avait perdu l'équilibre et sa vie avait basculé dans la mort. Maintenant, je me sentais libre et j'allais retourner chez moi.